Cicéron, Les Tusculanes, livre premier. Qu'il faut mépriser la mort. Après un préambule dans lequel Cicéron explique pourquoi il est arrivé à la philosophie après les affaires du barreau et du sénat, il en vient à son sujet, dans un dialogue avec un auditeur. L'auditeur. Je trouve que la mort est un mal, Cicéron. Pour les morts ou pour ceux qui ont à mourir? Ou pour les uns ou pour les autres? Alors, puisque c'est un mal, c'est donc une chose qui rend misérable ce qu'elle regarde. Oui, sans doute. Ainsi, et ceux qui sont déjà morts et ceux qui doivent mourir sont misérables. Je le crois. Personne donc qui ne soit misérable. Personne du tout. Donc, pour raisonner conséquemment, tout ce qu'il y a d'hommes nés ou à naître, non seulement sont misérables, mais le seront toujours. Car n'y eut-il de mal que pour ceux qui ont à mourir, cela regarderait tous les vivants, puisque sans exception ils sont tous mortels. Avec leur vie, cependant, leur misère finirait. Mais d'ajouter que les morts eux-mêmes sont misérables, c'est vouloir que nous soyons nés pour une misère sans borne, que ceux qui moururent il y a 100 000 ans et que tous les hommes en un mot soient misérables. Si est-ce bien mon avis. Dites-moi, je vous prie, n'est-ce point là que l'image des enfers vous effraie? Un Cerbère à trois têtes, les flots bruyants du Cocyte, le passage de l'Achéron, un Tantale mourant de soif et qui a de l'eau jusqu'au menton sans qu'il puisse y tremper ses lèvres. Ce rocher que Sisyphe épuisé hors d'haleine perd à rouler toujours ses efforts et sa peine. Des juges inexorables, Minos et Radamante, devant lesquels, au milieu d'un nombre infini d'auditeurs, vous serez obligés de plaider vous-même votre cause sans qu'il vous soit permis d'en charger ou Crassus, ou Antoine, ou, puisque ces juges sont grecs, Démosthène. Voilà peut-être l'objet de votre peur. Et sur ce fondement, vous croyez la mort un mal éternel. Pensez-vous que j'extravague jusqu'à donner là-dedans? Ah, vous n'y ajoutez pas froid. Pas le moins du monde. Ah, vous avez en vérité grand tort de l'avouer. Pourquoi, je vous prie? Parce que, si j'avais eu à vous réfuter sur ce point, j'allais m'ouvrir une belle carrière. L'auditeur. Mais qui ne serait éloquent sur un tel sujet? Où est l'embarras de prouver que ces tourments des enfers ne sont que pures imaginations de poètes et de peintres? Cicéron. Tout est plein, cependant, de traités philosophiques où l'on se propose de le prouver. Peine perdue, car se trouve-t-il des hommes assez sots pour en avoir peur? Mais s'il n'y a point de misérables dans les enfers, personne n'y est donc. Vous n'y croyez personne. Où donc sont-ils, ces morts que vous croyez misérables? Quel lieu habitent-ils? Car enfin, s'ils existent, il ne saurait ne pas être dans quelque lieu. Vous croyez qu'ils ne sont nulle part? Ah, vous croyez qu'ils n'existent donc point? Oui, et c'est justement parce qu'ils n'existent point que je les trouve misérables. Je vous pardonnerais encore plus tôt de croire un Cerbère que de parler si peu conséquemment. Comment? Vous dites du même homme qu'il est et qu'il n'est pas. Y songez-vous? Quand vous dites qu'un mort est misérable, c'est-à-dire d'un homme qui n'existe pas, qu'il existe. Je ne suis pas si peu sensé que de tenir ce langage. Que dites-vous donc? Je dis, par exemple, que Crassus est à plaindre d'avoir perdu de si grandes richesses en mourant, que Pompée est à plaindre d'avoir perdu tant de gloire, tant d'honneur, qu'enfin tous ceux qui ont perdu le jour sont à plaindre de l'avoir perdu. Vous y revenez toujours. car pour être à plaindre, il faut exister. Alors tout à l'heure, vous disiez que les morts n'existaient plus. Donc s'ils n'existent plus, ils ne sauraient être quelque chose, et par conséquent, ils ne sauraient être misérables. Je ne m'explique pas bien, apparemment. J'ai prétendu dire que de n'être plus après que l'on a été, c'est de tous les maux le plus grand. Pourquoi plus grand que de n'avoir pas absolument point été? Il s'ensuivrait de votre raisonnement que ceux qui ne sont pas nés encore sont déjà misérables, et cela parce qu'ils ne sont point. Car s'il est vrai qu'après notre mort nous souffrirons de n'être plus, il faut qu'avant notre naissance nous ayons souffert de n'être pas. Je n'ai pour moi nulle idée d'avoir eu des maux avant ma naissance. Peut-être vous souvenez-vous des vôtres. Je vous prie de m'en faire le récit. Vous le placez sur un ton de plaisanterie, comme si j'avais parlé des hommes qui sont à naître et non pas de ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont morts, vous dites donc qu'ils sont. Non, au contraire, je dis qu'ils sont misérables de n'être pas après qu'ils ont été. Vous ne sentez pas que cela implique contradiction? Qu'y a-t-il en effet de plus contradictoire que de n'être point du tout et d'être ou misérable ou tout ce qui vous plaira? Quand au sortir de la porte Capène, vous voyez les tombeaux de Cadatinus, des Scipions, des Servilus, des Metellus, jugez-vous que ces gens-là soient misérables? Puisque vous me chicanez sur ce mot « sont », je le supprimerai. Et au lieu de vous dire que les morts sont misérables, je dirais que c'est pour eux un mal de n'être plus. Mais quand vous dites « eux », vous supposez des gens qui existent. Ainsi, vous retombez toujours dans le même inconvénient, et quelque tour que vous preniez pour le dire, Crassus qui n'est plus est misérable, vous joindrez ensemble deux choses incompatibles, parce que l'un des deux termes « est » affirme ce que nie l'autre « qui n'est plus ». Eh bien, alors, puisque vous me forcez d'avouer que ceux-là ne sont pas misérables, qui ne sont point du tout, je reconnais que les morts ne sont pas misérables. Mais pour nous qui vivons, n'est-ce pas un mal que la nécessité de mourir? Quel plaisir est-on capable de goûter lorsqu'on a jour et nuit à penser que la mort approche? Ah, remarquez-vous que voilà de retrancher déjà une bonne partie de la misère humaine. Voyons comment. Parce que si la mort avait des suites fâcheuses, rien ne bornerait nos maux, ils seraient infinis. Mais de la manière dont nous l'entendons présentement, je vois qu'il y a un terme où j'arriverai et au doigt duquel je n'aurai plus à craindre. Vous entrez à ce qu'il me paraît dans la pensée d'Épicarme, qui était, comme la plupart des Siciliens, homme de beaucoup d'esprit. Que dit-il? Je n'en sais rien. Je vous le rendrai, si je puis, en latin, car vous savez que ma coutume n'est pas de mettre du grec dans mon latin, non plus que du latin dans mon grec. Vous avez raison, mais cette pensée d'Épicarme, dites-la-moi. Mourir peut être un mal, mais être mort n'est rien. Je me remets à présent le vers grec. Mais après m'avoir fait avouer que les morts ne sont pas misérables, prouvez-moi s'il vous est possible que la nécessité de mourir ne soit pas un mal. Très aisément, j'ai encore de plus grands projets. Très aisément, dites-vous? Oui, parce que la mort n'étant suivie d'aucun mal, la mort elle-même n'en est pas un. Car vous convenez que dans le moment précis qui lui succède immédiatement, il n'y a plus rien à craindre, et par conséquent mourir n'est autre chose que parvenir au terme où, de votre aveu, finissent tous nos maux. Je vous en prie, mettons ceci dans un plus grand jour. Avec des raisonnements trop serrés, on me fait dire oui avant que je sois persuadé. Mais quels sont ces grands projets dont vous me parliez? Je veux essayer de vous convaincre non seulement que la mort n'est point un mal, mais que même c'est un bien. Je n'en demandais pas tant. Je meurs d'envie cependant de voir comment vous le prouverez. Si vous n'en venez pas à bout, du moins il en résultera que la mort n'est point un mal. Au reste, je ne vous interromprai point. Un discours suivi me fera plus de plaisir. Et si j'ai à vous interroger, ne me répondrez-vous pas? Il y aurait une sotte fierté à ne pas répondre, mais autant qu'il se pourra, passez-vous de me faire des questions. Vous serez obéi. Je vais débrouiller cette matière tout de mon mieux. Mais en m'écoutant, ne croyez pas entendre Apollon sur son trépied et ne prenez pas ce que je vous dirai pour des dogmes indubitables. Je ne suis qu'un homme ordinaire, je cherche à découvrir la vraisemblance. Mes lumières ne sauraient aller plus loin. Pour le vrai et l'évident, je le laisse à ceux qui présument qu'il est à la portée de leur intelligence et qui se donnent pour des sages de profession. À la bonne heure, me voilà prêt à vous écouter. Premièrement donc, voyons ce que c'est que la mort qui paraît une chose si connue. Il y en a qui pensent que c'est la séparation de l'âme avec le corps. D'autres qu'il ne se fait point de séparation, mais que l'âme et le corps périssent en même temps et que l'âme s'éteint dans le corps. Parmi ceux qui tiennent que l'âme se sépare, les uns croient qu'elle se dissipe incontinent, d'autres qu'elle subsiste encore longtemps après, et d'autres qu'elle subsiste toujours. Mais cette âme, qu'est-ce que c'est? Où se tient-elle? Quelle est son origine? Autant de questions sur quoi l'on est peu d'accord. Selon quelques-uns, l'âme n'est autre chose que le cœur même. Empédocle voulait que ce fût le sang répandu dans le cœur. D'autres prétendent que c'est une certaine partie du cerveau. D'autres que ni le cœur ni le cerveau ne sont l'âme elle-même, mais seulement le siège de l'âme. D'autres que l'âme, c'est de l'air. Zénon le stoïcien, que c'est du feu. Voilà d'abord les opinions communes, cœur, sang, cerveau, air et feu. En voici de particulières et dans lesquelles peu de gens ont donné. Aristoxène, musicien et philosophe tout ensemble, dit que, comme dans le chant et dans les instruments, la proportion des accords fait l'harmonie. De même, toutes les parties du corps sont tellement disposées que, du rapport qu'elles ont les unes avec les autres, l'âme en résulte. Il a pris cette idée de l'art qu'il professait. Mais elle ne vient pourtant pas de lui, car Platon en avait parlé longtemps avant et fort au long. Xénocrate, selon les anciens principes de Pythagore qui attribuaient au nombre une prodigieuse vertu, a soutenu que l'âme n'avait point de figure, que ce n'était pas une espèce de corps, mais que c'était seulement un nombre. Platon, son maître, divise l'âme en trois parties, dont la principale, savoir la raison, se tient dans la tête comme dans un lieu éminent, d'où elle doit commander aux deux autres qui sont la colère et la concupiscence, toutes deux logées à part, la colère dans la poitrine, la concupiscence au-dessous. On a de Dicéarque un dialogue en trois livres où il rapporte ce qui fut dit entre de savants hommes à Corinthe. Dans le premier livre, il introduit divers interlocuteurs. Dans les deux autres, un certain vieillard de Phthie nommé Phérécrate, qu'il fait descendre de Deucalion et qui tient ce discours. Que l'âme n'est absolument rien, que c'est un mot vide de sens, qu'il n'y a d'âme ni dans l'homme ni dans la bête, que le principe qui nous fait agir, qui nous fait sentir, est répandu également dans tous les corps vivants, que l'âme n'étant rien, elle ne saurait donc être séparée du corps, et qu'enfin il n'y a d'existant que la matière, qui est une, simple, et dont les parties sont naturellement arrangées de telle sorte qu'elle a vie et sentiment. Aristote, qui du côté de l'esprit et par les recherches qu'il a faites est infiniment au-dessus de tous les autres philosophes, bon, j'accepte toujours Platon. Ayant d'abord posé pour principe de toute chose les quatre éléments que tout le monde connaît, il en imagine un cinquième, d'où l'âme tire son origine. Il ne croit pas que penser, que prévoir, apprendre, enseigner, inventer, se souvenir, aimer, haïr, désirer, craindre, s'affliger, se réjouir et autres opérations semblables puissent être l'effet des quatre éléments ordinaires. Il a donc recours à un cinquième principe qui n'a pas de nom, et il donne à l'âme un nom particulier qui signifie à peu près « mouvement sans discontinuation et sans fin ». Telles sont, autant que je me les rappelle, les diverses opinions qui ont été avancées sur ce sujet. Je passe à dessein celle d'un grand homme, Démocrite, qui prétend que l'âme se forme par je ne sais quel concours fortuit de corpuscules unis et ronds, car selon lui n'est rien que les atomes ne fassent. Or, de toutes ces opinions, il n'y a qu'un Dieu qui puisse savoir quelle est la vraie. Pour nous autres hommes, nous ne sommes pas peu embarrassés à démêler la plus vraisemblable. Voulez-vous que je m'arrête à en faire l'examen ou que j'en revienne à notre proposition ? Oh, je voudrais fort l'un et l'autre, mais il est difficile d'embrasser tout cela ensemble. Si vous pouvez, sans entrer dans cette discussion, me guérir de la crainte que j'ai de la mort, n'allons pas plus loin. Ou, s'il faut auparavant savoir à quoi s'en tenir sur l'essence de l'âme, voyons-le présentement. Une autre fois, le reste viendra. Et je vois lequel vous plairait davantage, et ce m'est aussi le plus commode. Car de toutes les opinions que j'ai rapportées, quelle que soit la véritable, il s'ensuivra toujours que la mort ou n'est point un mal ou plutôt est un bien. Prenons effectivement que l'âme soit ou le cœur ou le sang ou le cerveau. Tout cela étant partie du corps, périra certainement avec le reste du corps. Que l'âme soit d'air, cet air se dissipera. Qu'elle soit de feu, ce feu s'éteindra. Que ce soit l'harmonie d'Aristoxène, cette harmonie sera déconcertée. Et pour Dicéarque, puisqu'il n'avait point d'âme, il est inutile que j'en parle. Après la mort, selon toutes ces opinions, il n'y a plus rien qui nous touche, car le sentiment se perd avec la vie. Or, du moment qu'on ne sent plus, il n'y a plus de risque à courir. Quant aux autres opinions, elles n'ont rien qui ne flatte vos espérances. Supposez qu'il vous soit doux de croire qu'un jour votre âme peut aller dans le ciel comme dans sa véritable patrie. Oui, sans doute, j'aime à le croire et je souhaite ne point me tromper. Mais cette opinion fut-elle fausse, je serais gré à qui me la persuaderait. Pour cela, qu'avez-vous besoin de moi? Puis-je surpasser l'éloquence de Platon? Voyez ce qu'il a écrit de l'âme, pesez le bien, vous n'aurez rien de plus à désirer. Je l'ai lu, et plus d'une fois, et pendant que je suis à ma lecture, je sens à la vérité qu'elle me persuade. Mais du moment que j'ai quitté le livre et que je rêve en moi-même à l'immortalité de l'âme, il m'arrive, je ne sais comment, de retomber dans mes doutes. Voyons. Avouez-vous que les âmes ou subsistent après la mort ou périssent à l'instant de la mort? Assurément l'un des deux. Et si elles subsistent, j'avoue qu'elles seront heureuses. Et si elles périssent, qu'elles n'auront point à souffrir puisqu'elles n'existeront point. À l'égard de ce dernier article, vous m'avez mis il y a un moment dans la nécessité d'en convenir. Par où donc trouvez-vous que la mort puisse être un mal, puisque si les âmes sont immortelles, à la mort nous devenons heureux, et si elles périssent, nous ne serons plus capables de souffrir, ayant perdu tout sentiment. Je vous en supplie, commencez par me démontrer, s'il vous est possible, que l'âme est immortelle, et comme peut-être vous n'y réussirez point, car la chose n'est pas aisée, ensuite vous me ferez voir, du moins, que la mort n'a rien de fâcheux. Je la trouve à craindre, non pas quand elle m'aura privé de sentiments, mais parce qu'elle doit m'en priver. Pour appuyer l'opinion dont vous demandez à être convaincu, j'ai à vous alléguer de fortes autorités. Espèce de preuve qui, dans toutes sortes de contestations, est ordinairement d'un grand poids. Je vous citerai d'abord toute l'Antiquité. Plus elle touchait de près à l'origine des choses et aux premières productions des dieux, plus la vérité peut-être lui était connue. Or, la croyance générale des anciens était que la mort n'éteignait pas tout sentiment et que l'homme, au sortir de cette vie, n'était pas anéanti. Quantité de preuves, mais surtout le droit pontifical et les cérémonies sépulcrales, ne permettent pas d'en douter. Jamais des personnages d'un si grand sens n'auraient révéré si religieusement les sépulcres, ni condamné à de si grièves peines ceux qui les violent, s'ils n'avaient été bien persuadés que la mort n'est pas un anéantissement, mais que c'est une sorte de transmigration, un changement de vie, qui envoie au ciel les hommes et femmes d'un rare mérite, tandis que les âmes vulgaires sont retenues ici-bas, mais sans être anéanties. Et plein de ces idées, qui étaient celles de nos pères, et conformément au bruit de la renommée, Ennius a dit « Romulus est au ciel, il vit avec les dieux. » Hercule fut pareillement reconnu pour un très grand et très puissant dieu, d'abord dans la Grèce, ensuite parmi nous, et jusqu'aux extrémités de l'océan. On a, sur ce principe, défié Bacchus, fils de Sémélé, et les deux célèbres Tindarides, qui daignèrent, à ce qu'on dit, non seulement nous rendre victorieux dans un combat, mais en apporter eux-mêmes la nouvelle à Rome. Ino, fille de Cadmus, ne doit-elle pas aussi sa divinité à ce préjugé? En un mot, et pour éviter un plus long détail, n'est-ce pas les hommes qui ont peuplé le ciel? Si je fouillais dans l'Antiquité et que je pris sa tâche d'approfondir les histoires des Grecs, nous trouverions que ceux-mêmes d'entre les dieux à qui l'on donne le premier rang ont vécu sur la terre avant que d'aller au ciel. Informez-vous quels sont ceux de ces dieux dont les tombeaux se montrent en Grèce. Puisque vous êtes initié au mystère, rappelez-vous-en les traditions. Vous tirerez de là vos conséquences. Car dans cette antiquité si reculée, la physique n'était pas connue. Elle ne l'a été que longtemps après. En sorte que les hommes bornaient alors leurs notions à ce que la nature leur mettait devant les yeux. Il ne remontait point des effets aux causes. Et c'est ainsi que sur de certaines visions, la plupart nocturnes, souvent ils se déterminaient à croire que les morts étaient vivants. Appliquons ici ce qu'on regarde comme une très forte preuve de l'existence des dieux, qu'il n'y a point de peuple assez barbare, point d'homme assez farouche, pour n'en avoir pas l'esprit imbu. Plusieurs peuples, à la vérité, n'ont pas une idée juste des dieux. Ils se laissent tromper à des coutumes erronées, mais enfin, ils s'entendent tous à croire qu'il existe une puissance divine. Et ce n'est point une croyance qui ait été concertée. Les hommes ne se sont point donné le mot pour l'établir. Leurs lois n'y ont point de part. Or, dans quelque matière que ce soit, le consentement de toutes les nations doit se prendre pour loi de la nature. Tous les hommes, donc, ne pleurent-ils pas la mort de leurs proches? Et cela parce qu'ils les croient privés des douceurs de la vie? Détruisez cette opinion. Il n'y aura plus de deuil. Car le deuil que nous prenons, ce n'est pas pour témoigner la perte que nous faisons personnellement. On peut s'en affliger, s'en désoler au fond du cœur, Mais ces pompes funèbres, ces lugubres appareils, ont pour motif la persuasion où nous sommes, que la personne à qui nous étions tendrement attachés est privée des douceurs de la vie. C'est un sentiment naturel et qu'on ne peut attribuer ni à la réflexion ni à l'étude. Par où encore, on voit que la nature elle-même décide tacitement pour notre immortalité. C'est par cette ardeur avec laquelle tous les hommes travaillent pour un avenir qui ne sera qu'après leur mort. Nous plantons des arbres qui ne porteront que dans un autre siècle, dit Cécilius dans les Cinéphèbes. Mais pourquoi en planter si les siècles qui nous suivront ne nous touchaient en rien? Et de même qu'un homme qui cultive avec soin la terre plante des arbres sans espérer n'y voir jamais de fruits, un grand personnage ne plante-t-il pas, si j'ose ainsi dire, des lois, des coutumes, des républiques? Pourquoi cette passion d'avoir des enfants ou d'en adopter et de perpétuer son nom? Pourquoi cette attention à faire des testaments? Pourquoi vouloir de magnifiques tombeaux avec leurs inscriptions, si ce n'est parce que l'idée de l'avenir nous occupe? On est bien fondé, n'en convenez-vous pas, à croire qu'il faut, pour juger de la nature, la chercher dans les êtres les plus parfaits de chaque espèce. Or, entre les hommes, les plus parfaits ne sont pas ceux qui se croient nés pour assister, pour défendre, pour sauver les autres hommes. Hercule est au rang des dieux. Il n'y fut jamais arrivé si, pendant qu'il était sur la terre, il n'eût pris cette route. Je vous cite là un exemple ancien et que la religion de tous les peuples a consacré. Mais tant de grands hommes qui ont répandu leur sang pour notre République, pensaient-ils autrement? Pensaient-ils, dis-je, que le même jour qui terminerait leur vie terminait aussi leur gloire? Jamais, sans une ferme espérance de l'immortalité, personne n'affronterait la mort pour sa patrie. Thémistocle pouvait couler ses jours dans le repos, et Epaminondas le pouvait, et sans chercher des exemples dans l'Antiquité ou parmi les étrangers, moi-même je le pouvais. Mais nous avons au-dedans de nous je ne sais quel pressentiment des siècles futurs, et c'est dans les esprits les plus sublimes, c'est dans les âmes les plus élevées qu'il est le plus vif et qu'il éclate davantage. Ôter ce pressentiment, serait-on assez fou pour vouloir passer sa vie dans les travaux et dans les dangers? Je parle de grands. Et que cherchent aussi les poètes qu'à éterniser leur mémoire? Témoin celui qui dit « Ici, sur Ennius, Romain, jetez les yeux, par lui furent chantés vos célèbres aïeux. » Tout ce qu'Ennius demande pour avoir chanté la gloire des pères, c'est que les enfants fassent vivre la sienne. Qu'on ne me rende point de funèbres hommages, je deviens immortel par mes doctes ouvrages, dit-il encore. Mais à quoi bon parler des poètes? Il n'est pas jusqu'aux artisans qui n'aspirent à l'immortalité. Phidias, n'ayant pas la liberté d'écrire son nom sur le bouclier de Minerve, y grava son portrait. Et nos philosophes, dans les livres mêmes qu'ils composent sur le mépris de la gloire, n'y mettent-ils pas leur nom? Puisse donc que le consentement de tous les hommes est la voix de la nature, et que tous les hommes, en quelque lieu que ce soit, conviennent qu'après notre mort il y a quelque chose qui nous intéresse, nous devons aussi nous rendre à cette opinion. Et d'autant plus qu'entre les hommes, ceux qui ont le plus d'esprit, le plus de vertu et qui par conséquent savent le mieux où tend la nature, sont précisément ceux qui se donnent le plus de mouvement pour mériter l'estime de la postérité. Mais comme l'impression de la nature se borne à nous apprendre l'existence des dieux et qu'ensuite, pour découvrir ce qu'ils sont, nous avons besoin de raisonner, aussi le consentement de tous les peuples ne va qu'à nous enseigner l'immortalité des âmes. Mais nous ne saurions qu'à l'aide du raisonnement découvrir ce qu'elles sont et où elles résident. Par ce qu'on ignorait, on a imaginé des enfers, avec tous ces objets formidables que vous paraissiez tout à l'heure mépriser si justement. On se persuadait que les cadavres ayant été inhumés, les morts allaient pour toujours vivre sous la terre. C'est ce qui donna lieu à ces grossières erreurs que les poètes ont bien fortifiées. Une assemblée nombreuse, toute pleine de femmes et d'enfants, ne tient point contre la peur lorsqu'au théâtre on fait ronfler ses grands verres. À travers les horreurs de la nuit infernale, j'arrive en ce séjour par un affreux dédale de rocs entrecoupés, d'autres fulmineux, de profondes forêts, de monts caverneux. On avait même poussé l'erreur jusqu'à un accès dont il me semble qu'on est revenu aujourd'hui. Car nos anciens croyaient qu'un mort, dont le cadavre avait été brûlé, ne laissait pas de faire dans les enfers ce qu'absolument on ne peut faire qu'avec un corps. Il ne pouvait pas comprendre une âme subsistante par elle-même. Il lui donnait une forme, une figure. Et de là toutes ces histoires de mort dans Homère, de là cette nécromancie de mon ami Appius, de là dans mon voisinage ce lac d'Averne, où l'art qui commande aux morts va de leur demeure sombre évoquer les pâles ombres, vaines images des corps. Images qui, à ce qu'on croyait, ne laissaient pas de parler. Comme s'il était possible d'articuler sans langue, sans palais, sans gosier et sans poumon. Autrefois, on ne pouvait rien voir mentalement, on ne connaissait que le témoignage des yeux. Il n'appartient en effet qu'à un esprit sublime de se dégager des sens et de se rendre indépendant du préjugé. Les siècles antérieurs, à Phérécide, n'ont pas été apparemment sans quelques esprits de ce caractère qui auront bien compris que l'âme était immortelle. Mais de tous ceux dont il nous reste des écrits, Phérécide est le premier qui l'ait soutenu. Il est ancien, sans doute, car il vivait sous celui de nos rois qui portait le même nom que moi. Pythagore, disciple de Phérécide, appuya fort cette opinion. Il arriva en Italie, sous le règne de Tarquin le Superbe, et ayant ouvert une école dans la Grande Grèce, il s'y acquit tant de considération que durant plusieurs siècles après lui, à moins que d'être pythagoricien, on ne passait point pour savant. Mais hors des cas où les nombres et les figures pouvaient servir d'explication, les anciens pythagoriciens ne rendaient presque jamais raison de ce qu'ils avançaient. Platon étant, dit-on, venu en Italie pour les voir et ayant connu, entre autres, Archytas et Timée, qui lui apprirent tous les secrets de leur secte, non seulement il embrassa l'opinion de Pythagore touchant l'immortalité de l'âme, mais le premier de tous, il entreprit de la démontrer. Passons sa démonstration si vous le jugez à propos, et renonçons une bonne fois à tout espoir d'immortalité. L'auditeur. Et quoi, au moment que mon attente est la plus vive, vous m'abandonneriez ? Je sais combien vous estimez Platon. Je le trouve admirable dans votre bouche et j'aime mieux me tromper avec lui que de raisonner juste avec d'autres. Je vous en loue, et moi, de mon côté, je veux bien aussi m'égarer avec un tel guide. Pour entrer donc en matière, admettons d'abord un fait qui pour nous-mêmes, quoique nous doutions presque de tout, n'est pas douteux. Car les mathématiques le prouvent, que la Terre n'est à l'égard de l'univers entier que comme un point qui, placé au milieu, en fait le centre, que les quatre éléments principes de toute chose sont de telle nature qu'ils ont chacun leur détermination, que les parties terrestres et les aqueuses tombant d'elles-mêmes sur la terre et dans la mer occupent par conséquent le centre du monde, qu'au contraire, les deux autres éléments, savoir le feu et l'air, montent en ligne droite à la région céleste, soit que leur nature particulière les porte en haut, soit qu'étant plus légers, ils soient repoussés par les deux autres éléments qui ont plus de poids. Or, cela supposé, il est clair que sortir du corps, l'âme tend au ciel, soit qu'elle soit d'air, soit qu'elle soit de feu. Et si l'âme est un certain nombre, opinion plus subtile que claire, ou si c'est un cinquième élément dont on ne saurait dire le nom ni comprendre la nature, à plus forte raison, s'éloignera-t-elle de la terre, puisqu'elle sera un être moins grossier encore et plus simple que l'air et le feu. Reconnaissons au reste qu'elle doit son essence à quelqu'un de ses principes, plutôt que de croire qu'un esprit aussi vif que celui de l'homme soit lourdement plongé dans le cœur ou dans le cerveau, ou comme le veut Empédocle, dans le sang. Je ne parle ni de Dicéarque, ni d'Aristoxène, son contemporain et son condisciple. Ils avaient du savoir, mais l'un apparemment, puisqu'il ne s'aperçoit pas qu'il est une âme, n'a donc jamais éprouvé qu'il fût sensible. Et pour ce qui est de l'autre, sa musique le charme à un tel point qu'il voudrait que l'âme fût musique aussi. On peut bien comprendre que différents tons qui se succèdent les uns aux autres et qui sont variés avec art forment des accords harmonieux, mais que les diverses parties d'un corps inanimé forment une sorte d'harmonie parce qu'elles sont placées et figurées d'une telle façon, c'est ce que je ne conçois pas. Aristoxène, donc, tout docte qu'il est d'ailleurs, ferait mieux de laisser parler sur ces matières Aristote, son maître. Qu'il montre à chanter, voilà ce qui lui convient à lui. Car le proverbe des Grecs, que chacun fasse le métier qu'il entend, est bien sensé. Quant à Démocrite, pure folie que cette rencontre fortuite d'atomes unis et ronds, dont il fait précéder le principe de la respiration et de la chaleur. Pour en revenir donc aux quatre éléments connus, il faut, si l'âme en est formée, comme l'a cru Panétius, qu'elle soit un air enflammé. D'où il s'ensuit qu'elle doit gagner la région supérieure, car ni l'air ni le feu ne peuvent descendre, ils montent toujours. Ainsi, supposez qu'enfin il se dissipe, c'est loin de la terre. Et supposez qu'il ne dissipe pas, mais qu'il se conserve en leur entier, dès lors il tente encore plus nécessairement en haut, et perce cet air impur et grossier qui touche la terre. Car il y a dans notre âme une toute autre chaleur que dans cet air épais. On le voit bien, puisque nos corps, qui sont composés de terre, empruntent de l'âme tout ce qu'ils ont de chaleur. Ajoutons que l'âme étant d'une légèreté sans égale, il lui est bien facile de fendre cet air grossier et de s'élever au-dessus. Rien n'approche de sa vélocité. Si donc elle demeure incorruptible et sans altération, il faut que, montant toujours, elle pénètre au travers de cet espace où se forment les nuées, les pluies, les vents, et qui, à cause des exhalaisons terrestres, est humide et ténébreux. Quand elle l'a traversée et qu'elle se trouve où règne un air subtil avec une chaleur tempérée, ce qui est conforme à sa nature, là, elle se range avec les astres et ne fait plus d'efforts pour monter plus haut. Elle s'y tient immobile et toujours dans l'équilibre. C'est là, enfin, sa demeure naturelle, où elle n'a plus besoin de rien, parce que les mêmes choses qui servent l'aliment aux astres lui en servent aussi. Et qu'est-ce qui enflamme nos passions? Mais ce sont les sens. L'envie nous dévore à la vue des personnes qui ont ce que nous voudrions avoir. Quand donc nous aurons quitté nos corps, nous serons certainement heureux, sans passion, sans envie. Aujourd'hui, dans nos moments de loisir, nous aimons à voir, à étudier quelque chose de curieux, et nous pourrons alors nous satisfaire bien plus librement. Alors nous méditerons, nous contemplerons, nous nous livrerons à ce désir insatiable de voir la vérité. Plus la région où nous serons parvenus nous mettra à portée de connaître le ciel, plus nous sentirons croître en nous le désir de le connaître. Ce fut, dit Théophraste, la beauté des objets célestes qui fit naître dans l'esprit des hommes la philosophie que nous tenons de nos ancêtres. Si ces découvertes ont de grands charmes, ce doit être surtout pour ceux qui, dès cette vie, cherchaient à les faire malgré les ténèbres dont nous sommes environnés. On se fait une joie d'avoir vu l'embouchure du pont Euxin et le détroit que passa à l'Argo ce fameux navire, ainsi nommé à cause des vaillants Argiens qui, sur ses bords reçus, allaient déshonorer l'or du bélier de Phrixus. On se sait gré d'avoir vu cet autre détroit où Neptune en furie, délié de l'Europe, a franchi la Libye. Que sera-ce donc et quel spectacle quand d'un coup d'œil on découvrira toute la terre, quand on pourra en voir la position, la forme, l'étendue. Ici les régions habitées, ailleurs celles que trop de chaud, trop de froid en déserte. Aujourd'hui, les choses mêmes que nous voyons, nous ne les voyons pas de nos yeux, car le sentiment n'est pas dans le corps. Mais selon les physiciens et selon les médecins eux-mêmes, qui ont examiné ceci de plus près, il y a comme des conduits qui vont du siège de l'âme aux yeux, aux oreilles, aux narines. Tellement qu'il suffit d'une maladie ou d'une distraction un peu forte pour ne voir ni n'entendre, quoique les yeux soient ouverts et les oreilles bien disposées. Preuve que ce qui voit et ce qui entend, c'est l'âme, et que les parties du corps qui servent à la vue et à l'ouïe ne sont, pour ainsi dire, que des fenêtres par où l'âme reçoit les objets. Encore ne les reçoit-elle pas, si elle n'y est attentive. De plus, la même âme réunit des perceptions très différentes, la couleur, la saveur, la chaleur, l'odeur, le son. Et pour cela, il faut que ces cinq sens ménagers lui rapportent tout et qu'elle soit elle seule juge de tout. Et quand elle sera arrivée où naturellement elle tend, là elle sera bien plus en état de juger. Car présentement, quoique ses organes soient pratiqués avec un art merveilleux, ils ne laissent pas d'être bouchés, en quelque sorte, par les parties terrestres et grossières qui servent à les former. Mais quand elle sera séparée du corps, il n'y aura plus d'obstacle qui l'empêche de voir les choses absolument comme elles sont.